l'homme philistin. Dieu n'est plus avec toi. Commençons par 1 Samuel 5, versets 1 à 9. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après 7 ans emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Car il a appesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et ils dirent, « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent, « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. » Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'il eût été porté, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Après avoir lu tous ces passages, quel enseignement peut-on tirer de cette histoire? Dans cette histoire, qui est Philistin? Qui est Dagon? Mais tout croyant chrétien connaît que c'est le temple, c'est le corps de l'homme. Philistin n'est autre que l'homme païen, l'homme dépourvu de l'Esprit de Dieu. Dagon est le dieu des Philistins, donc le dieu des païens, le dieu du monde. Ce dieu des païens et du monde a ses attributs. Ses attributs déterminent sa personne. Ses attributs sont contraires à la personne et aux attributs de Dieu saint, c'est-à-dire Christ, la parole de Dieu. Les attributs de Dagon se manifestent dans le comportement, la conduite, l'attitude exprimée par l'homme philistin. L'homme philistin est l'ami de Dagon. Il est attaché à Dagon, qui est son Dieu. Il vit la vie de son Dagon. Donc, nous pouvons dire la vie du péché. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Ils l'ont introduit dans le temple de leur dieu Dagon. C'est comme un païen, après avoir entendu la parole de Dieu, accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais il y a un problème, car le Dieu Christ, que l'ex-païen a accepté, ne partage pas le temple avec un autre Dieu. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. 1 Samuel 5, versets 2 et 3. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Mais l'homme philistin veut garder ses deux dieux dans son temple. Il veut garder Christ et son dieu Dagon dans son temple, c'est-à-dire dans son corps. 1 Samuel 5, verset 4. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Et dans les versets 6 à 8, la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ?» Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath, l'arche du Dieu d'Israël. » Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais l'homme philistin préfère son ami Dagon, son Dieu, que de l'abandonner. Automatiquement, il se fait ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans ce cas, le Dieu Christ quitte ce temple de l'homme philistin où siège son ami et Dieu Dagon. Ceci est le choix de l'homme philistin. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il a choisi son ami et Dieu Dagon pour vivre avec. Mais il oublie que Dagon est Dieu qui procure la mort. 1 Samuel 5, verset 9. Mais après qu'elles eussent été transportées, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Jérémie 18, verset 11. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Ces souffrances et ces malheurs, c'est l'homme philistin qui les a choisis. Après avoir suivi cet épisode de l'histoire des Philistins, c'est-à-dire de Dagon et de Dieu, voici l'enseignement tiré de ces passages que chaque croyant chrétien devrait méditer. Un homme qui a entendu la bonne nouvelle et qui a accepté de porter le nom de Jésus, devient le temple de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Bref, le temple de Dieu. En devenant le temple de Dieu, cet homme devient croyant chrétien. On ne doit plus trouver en lui les attributs de Dieu Dagon. Éphésiens 4, versets 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 5, versets 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Le Dieu saint, le Dieu de la vérité, le Père de Jésus-Christ ne peut pas cohabiter avec le Dieu Dagon. Mais on constate que la majorité de ceux qui se disent croyants chrétiens expriment leur croyance et chrétienté que par la bouche, sachant que le dieu Dagon siège toujours dans le temple de leur corps. Car étant dans leur corps, il est toujours le maître de leur cœur, c'est-à-dire l'expression corporelle de leur vie, qui n'est autre que les attributs de Dagon. Cela veut dire le comportement, la conduite et l'attitude qui expriment en traduisant que la vie de Dagon en eux. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Pour ceux qui continuent à vivre la vie de Dagon, qui est la vie du péché, ils n'obéissent pas aux recommandations de Dieu, par son Christ, sa parole. Ces croyants chrétiens qui agissent ainsi se trompent en croyant que Dieu est avec eux. Non, Dieu n'est plus avec eux, car Christ Dieu ne partage pas son temple avec un autre Dieu. Aux yeux du monde, c'est vrai qu'ils peuvent recevoir des bénédictions. Mais ces bénédictions ne viennent pas de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici d'où viennent ces bénédictions. Luc 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Le dieu Dagon, c'est-à-dire le diable, bénit ses amis, c'est-à-dire ceux qui lui obéissent et l'adorent. Faut-il encore savoir que ces bénédictions sont éphémères et se terminent par les souffrances et les malheurs. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs, amis en Christ, avez-vous véritablement et sincèrement abandonné le Dieu Dagon pour vous attacher à Dieu saint par son Christ, sa parole? Oh, frères et sœurs, croyez-le, c'est le moment de vous examiner. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Après avoir pris connaissance de cet enseignement, c'est le moment de vous juger sincèrement vous-même et de prendre votre décision de vous éloigner de Dieu Dagon et d'offrir l'entièreté du temple de votre corps à Dieu saint. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Job 28:28. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Romains 6:11-14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En se débarrassant de Dagon, le croyant chrétien n'est plus sous son autorité, mais sous l'autorité du Christ. Il est dans l'intérêt de chacun de nous, frères et sœurs, de ne pas négliger les enseignements qui sont pour la construction ou la reconstruction de votre temple. Rappelez-vous des proverbes du chapitre 6, qui se trouvent dans le verset 21 et dans le verset 23. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Que le Seigneur vous éclaire, frères et sœurs, amis en Christ. Et nous terminerons tout simplement cet enseignement avec Éphésiens 5, versets 8 à 14. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. »